d'archiviste, il a interrogé quelques-uns, exactement les 35 survivants d'un commando, je crois, de 600 ou 700 qui s'était évadé pour pouvoir porter témoignage ensuite. Il en reste 35 ou 40. Il est arrivé à reconstituer toute la vie. Il a fait un petit microcosme du grand macrocosme de Treblinka dans son livre. Et c'est hallucinant parce que rien de cela ne peut s'inventer. Enfin, je ne peux pas citer de détails car ce n'est pas possible, mais des choses comme la gare factice qu'on avait imaginée pour que les gens, quand ils arrivaient là, puissent se dire qu'ils n'arrivaient pas dans un camp d'extermination, mais peut-être dans un lieu qui n'était peut-être pas Dieppe ou Biarritz, mais un lieu de séjour. Alors, il y avait une gare complètement factice, derrière laquelle il y avait tout ce qu'il fallait, naturellement, pour disparaître. Enfin, c'est un livre absolument hallucinant, probablement très exact, sans aucun pathétique, sans aucun pathétique comme dans Le Dernier de Juste, et moins émouvant que Schwarzbart sans doute, mais plus dur, plus implacable, plus irréfutable, plus effarant. Et quand on voit dans un hebdomadaire, comme je l'ai lu cette semaine, et j'ai peine à le croire, qu'à Munich, au dernier carnaval, on vendait pour 35 marques des tenues de déportés, rayées, je suppose cet hebdomadaire qui est l'Observateur ne l'a pas inventé, on est absolument confondu. Ceci n'a naturellement
rien inventé. Il l'a pris dans les récits du directoire où on avait des balles des guillotinés, non?
Oui.
Ça n'est pas neuf.
Sans doute. Les circonstances ne sont quand même pas tout à fait les mêmes. Il est difficile de comparer la Révolution française et Treblinka.
Enfin, on voit bien que tu as la tête sur les épaules.
Quoi?
On voit bien que tu as la tête sur les épaules.
Bon, en tout cas, ceci nous entraîne loin de la littérature, mais monsieur, vous voulez qu'on parle de Treblinka, c'est un livre qui... dire qu'il faut lire, c'est grotesque, mais qu'on peut lire avec profit.
Je crois qu'il faudrait en parler avec la pièce de Peter Weiss sur Auschwitz.
Oui, on en reparlera au moment de notre tribune du théâtre. Alors, pour l'instant, je vais donc vous remercier en m'excusant de ne pas vous avoir permis de parler de la quarantaine de Jean-Louis Curtis que nous allons avoir à ce micro. Je rappelle simplement que nous avons parlé du déluge de Le Clésio chez Gallimard, de Mémoire de Dirk Krasp de La Rochelle chez Gallimard, du Chemin des Caracoles de Daniel Boulanger chez Robert Laffont, du 36e dessous de Ninos chez Hachette, de Treblinka chez Fayard, de Midi Minuit de Jean Cayrol aux éditions du Seuil. Je crois que je n'en ai pas oublié. Je vous remercie beaucoup, Marie-Claude de Brunhoff, Roger Vrigny, Mathieu Gallet et Robert Canters.
Bonjour. Alors, vous venez d'entendre l'émission du Masque et la Plume sur Treblinka de Jean-François Steiner. J'y viendrai dans un moment. Mais puisque c'est le dernier cours, je voudrais le mener avec plusieurs parties et de manière un peu discontinue. Pour commencer, je voudrais revenir sur la fin de cette année 1966. Lors du premier cours, j'ai déplacé la chronologie, le calendrier de ce cours. J'ai dit que j'étais obligé de commencer à l'automne de 1965, au 1er septembre, pour suivre la saison littéraire, théâtrale, cinématographique. J'ai donc plutôt parlé de la saison, de l'année académique 1965-1966, du 1er septembre au 30 juin, terminant la semaine dernière avec le retour du général de Gaulle de son grand voyage en URSS. Il est revenu le 1er juillet 1966. Néanmoins, dans les derniers cours, j'ai peu à peu mordu sur l'automne de 1966, par exemple en parlant des polémiques autour de Jean-Paul Sartre, et notamment du numéro de L'Arc, où il était très virulent contre le structuralisme, contre Foucault, contre Lévi-Strauss, contre Althusser. J'ai également, dans les dernières semaines, évoqué la publication des écrits de Lacan, novembre 1966, et plus brièvement, du second tome des mythologiques de Lévi-Strauss, du Miel aux cendres, en décembre 1966. La semaine dernière, j'ai encore évoqué la fondation de l'UJCML en décembre 1966. Alors, je voudrais rapidement boucler cette chronologie de l'année 1966 et, au fond, confirmer un certain nombre des tendances ou des tournants que j'ai évoqués en prenant quelques événements de l'automne 1966. Et je commencerai par le voyage du général de Gaulle qui clôt la saison. C'est le voyage, si ça s'était terminé à Moscou le 1er juillet 1966, ça a recommencé le 1er septembre avec le fameux discours de Phnom Penh. qui était dans la continuité d'événements qu'on a évoqués, à savoir le retrait de l'OTAN annoncé en février-mars 1966. Le 1er septembre, la France s'est retirée du commandement de l'OTAN et à Phnom Penh, devant 100 000 personnes, je crois, le général de Gaulle condamne le conflit qui est engagé par les États-Unis à quelques 100 kilomètres de là, au Vietnam, et affirme le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc, grande continuité de cette politique à travers l'année. Je voudrais évoquer, je crois que je l'ai déjà fait brièvement d'ailleurs, quelques événements de cet automne, comme le colloque de Cerisy, de 12 septembre, les chemins actuels de la critique, qui, d'une certaine façon, là aussi, clôt les polémiques auxquelles nous avons assisté, les polémiques du printemps sur la nouvelle critique, décade de Cerisy sous la direction de Georges Poulet, réédité de nombreuses fois en 67, 68 et jusqu'à 1973 avec Paul Demand, Jean Rousset, Jean-Pierre Richard, Gérard Genette, Serge Dubrovski, Gérald Antoine, dont Antoine Pro nous a encore parlé la semaine dernière, René Girard. Mais nous l'avions noté en l'absence de Roland Barthes, qui était le protagoniste principal des querelles du printemps. On peut évoquer aussi ce numéro de communication, je ne sais plus si j'en ai déjà parlé, numéro 8, publié en septembre 1966, Recherche sémiologique, qui bascule vers l'analyse structurale du récit et qui est là aussi une réponse aux polémiques du printemps dans un virage vers le formalisme. L'article de Barthes, Introduction à l'analyse structurale du récit, les articles de Genette, d'Umberto Eco, etc. On pourrait évoquer, je crois que je l'ai cité à un moment, mais de manière un peu périphérique, et peut-être aurait-il fallu en parler davantage, la mort d'André Breton, le 28 septembre. Je sais que je l'ai évoqué à propos d'Aragon, à propos de Malraux, pour qui c'est en effet une période qui se clôt. Il y a également le colloque de Johns Hopkins, 18-21 octobre, organisé par René Girard, Eugenio Donato, Richard Maxey à Baltimore, et dont on dit souvent que c'est ce qui a fait traverser l'Atlantique au structuralisme. On y retrouve toute une brochette des protagonistes dont nous avons beaucoup parlé au cours de cette série de leçons, Jean-Hippolyte, Lucien Goldman, Georges Poulet de nouveau, Roland Barthes, Tsvetan Todorov, Nicolas Ruvet, Jacques Derrida, Jacques Lacan, etc. Cela nous montre bien que le structuralisme est entré dans les médias, est en train de basculer vers les États-Unis, où à cette étape-là, il s'appellera post-structuralisme. Je voudrais évoquer un petit peu plus longuement, parce que je n'en ai pas assez parlé, le scandale de Strasbourg de l'automne de 1966. Je crois que je l'ai cité à une occasion dans un cours, je ne sais plus laquelle exactement. Le 26 octobre 1966, le professeur Abraham Moll, qui est le titulaire de la chaire de psychosociologie et qui est un cybernéticien, est chassé de sa leçon inaugurale par un jet de tomates pourries. Il est accusé d'être chargé de la programmation des jeunes cadres. On entre dans une polémique qui occupera largement tout l'automne. Les élus à la direction de l'association locale de l'UNEF, avant l'été, sans programme, ont reçu l'aide des situationnistes, membres de l'Internationale situationniste au cours de l'été. J'ai évoqué le numéro de l'Internationale situationniste de 1966 lorsque j'ai parlé de Godard et des attaques contre Godard et Aragon. Les situationnistes les ont aidés à rédiger un manifeste qui, le 22 novembre 1966, cette plaquette de la misère en milieu étudiant considérée sous ses aspects économiques, politiques, psychologiques, sexuels et notamment intellectuels et de quelques moyens pour y remédier, eh bien cette plaquette est distribuée à la rentrée solennelle de l'université. Il y avait encore des rentrées solennelles à l'époque. Elle est éditée par l'Association fédérative générale des étudiants de Strasbourg et elle annonce une assemblée générale pour se dissoudre. C'est le premier point du programme. Cette brochure est très agressive. Je crois vous en avoir lu un jour l'incipit. Nous pouvons affirmer sans grand risque de nous tromper que l'étudiant en France est, après le policier et le prêtre, l'être le plus universellement méprisé. Et je pense que je ne vous ai pas lu les derniers mots de cette brochure. Les révolutions prolétariennes seront des fêtes ou ne seront pas, car la vie qu'elles annoncent sera elle-même créée sous le signe de la fête. Le jeu est la rationalité ultime de cette fête. Vivre sans temps mort et jouir sans entrave sont les seules règles qu'il pourra reconnaître. Ce jouir sans entrave restera un mot d'ordre prégnant pendant les années qui vont suivre. Et entre les deux, cette brochure frappe fort sur les idoles de l'année. Et on a donc un assez bon résumé de ce que nous avons vu dans les leçons précédentes. On frappe sur ces idoles qui aliènent l'étudiant. Je cite... Incapable de passion réelle, l'étudiant, il fait ses délices des polémiques sans passion entre les vedettes de l'inintelligence sur de faux problèmes dont la fonction est de masquer les vrais. Althusser, Garaudy, Sartre, Barthes, Picard, Lefebvre, Lévi-Strauss, Halliday, Châtelet, Antoine, humanisme, existentialisme, structuralisme, scientisme, nouveau criticisme, dialecto-naturalisme, cybernétisme, planétisme, métaphilosophisme. Voilà ce qui est condamné par ces étudiants qui les aliènent, et je continue à citer cette même page pour les idoles. Dans son application, l'étudiant se croit d'avant-garde parce qu'il a vu le dernier Godard, acheté le dernier livre argumentiste, cette fois-ci c'est Costas Axelo, c'est Edgar Morin, participé au dernier happening de La Passade, ce con. La Passade que j'ai évoquée à propos d'Edgar Morin dans l'enquête de Plozévet. Il y a quelques semaines, puisque c'était lui qui était à l'origine de cette sociologie active. Cet ignorant prend pour des, l'étudiant prend pour des nouveautés révolutionnaires garanties par label les plus pâles ersatz d'anciennes recherches effectivement importantes en leur temps, édulcorées à l'intention du marché. La question est de toujours préserver son standing culturel. L'étudiant est fier d'acheter, comme tout le monde, les rééditions en livre de poche d'une série de textes importants et difficiles que la culture de masse répand à une cadence accélérée. Seulement, il ne sait pas lire. Il se contente de les consommer du regard. Phrase qui résume également toute une leçon que j'ai faite sur l'invasion du marché par le livre de poche. Ses lectures préférées restent la presse spécialisée qui orchestre la consommation délirante des gadgets culturels. Docilement, il accepte ses oukases publicitaires et en fait la référence standard de ses goûts. Il fait encore ses délices de l'Express et de l'Observateur, ou bien il croit que Le Monde, dont le style est déjà trop difficile pour lui, est vraiment un journal objectif, etc. La plume était excellente, c'était celle de Mustapha Kayati, que vous voyez ici, avec Alice Becker-O, qui deviendra la veuve de Guy Debord. Et comme vous le savez, la société du spectacle vient d'entrer, le manuscrit vient d'entrer à la Bibliothèque nationale. Le bureau de ces étudiants de l'UNEF de Strasbourg est accusé d'avoir dilapidé l'argent pour imprimer cette brochure. La justice est saisie en référé et ils sont condamnés. Voici l'attendu du jugement. Qu'il suffit en effet de lire ces publications dont les défendeurs sont les auteurs pour constater que ces cinq étudiants, à peine sortis de l'adolescence, sans aucune expérience, le cerveau encombré de théories philosophiques, sociales, politiques et économiques mal digérées et ne sachant comment dissiper leur morne ennui quotidien, émettent la vaine, orgueilleuse et dérisoire prétention de porter des jugements définitifs sur leurs condisciples, leurs professeurs, Dieu, les religions, le clergé, les gouvernements et les systèmes politiques et sociaux du monde entier, puis rejetant toute morale et toute entrave légale, vont cyniquement jusqu'à prôner le vol, la destruction des études, la suppression du travail, la subversion totale et la révolution mondiale prolétarienne sans retour possible pour jouir sans entrave. Voilà qu'ils sont donc condamnés selon l'ordonnance de référé rendu le 13 décembre 1966, et vous voyez que ça nous mène à la fin de cette année, par le tribunal de grande instance de Strasbourg, qui met sous séquestre les locaux et qui interdit l'AG qui devait prononcer la dissolution le 16 décembre. Sans doute, cela me fait-il penser que j'aurais dû insister davantage sur deux ouvrages qui seront publiés en 1967. Mais j'ai beaucoup parlé de Blanche ou l'oubli d'Aragon et des anti-mémoires de Malraux, publiés en 1967, mais justement écrits en 1966. J'aurais donc dû parler davantage de ces deux livres rédigés, achevés en 1966, soumis à l'éditeur en 1966, La Société du spectacle, donc, de Guy Debord, qui paraîtra en novembre 1967, de même que le traité de savoir-vivre à l'usage des jeunes générations de Raoul Van Eghem, qui est déposé, soumis à l'éditeur Gallimard au début de 1966, mais Gallimard met, au fond, jusqu'aux épisodes de l'hiver que je viens d'évoquer, pour se rendre compte que ça vaut la peine de publier ce livre, que ça se vendra. Et cela complète, en effet, ce programme qui mène à ce que nous découvrirons dans les années suivantes. Le numéro de l'International Situationniste de 1967, sur lequel je me fonde pour ce que je vous dis des épisodes de Strasbourg, fait un récit très très complet de ces mésaventures et conclut « Nous voulons que les idées redeviennent dangereuses, on ne pourra pas se permettre de nous supporter dans la pâte molle du faux intérêt éclectique comme des Sartres, des Althusser, des Aragon et des Godard. » Je voudrais encore terminer cette année 1966 en revenant sur, là aussi, des moments qui font en effet une clôture. J'ai évoqué au printemps le premier numéro de la quinzaine littéraire, le 15 mars, je crois, avec un certain nombre d'articles tout à fait majeurs, celui de Barthes sur la biographie de Painter, celui de Châtelet sur « Lire le Capital » et pour Marx d'Althusser, etc. Eh bien, le 1er novembre, le magazine littéraire publie, lui, son premier numéro sous la direction de Guy Sidbon, confirmant le point de vue que j'avais énoncé dans les premiers cours sur la démographie, la sociologie et la constitution d'un nouveau public intellectuel. On pourrait également évoquer la nouvelle collection qui sort chez Gallimard. On avait parlé avec Pierre Nora de la Bibliothèque des sciences humaines qui était lancée au mois de mars 1966. L'année se termine avec une nouvelle collection lancée en novembre, Connaissance de l'inconscient, sous la direction de J.B. Pontalis, qui publie la correspondance de Freud en deux volumes pour inaugurer cette nouvelle collection. Je terminerai en évoquant le film qui sort le 1er décembre sur les écrans à Paris et qui est La Grande Vadrouille de Gérard Houry sur les déboires des Français face aux Allemands sous l'occupation avec le duo célèbre de Bourvil et de Louis de Funès. Pendant plus de 40 ans, 1966 jusqu'à il y a 2 ans, c'est le plus grand succès d'un film français sur le territoire national, avec plus de 17 millions de spectateurs. Il a été dépassé seulement en avril 2008 par Bienvenue chez les Ch'tis. Pendant plus de 30 ans, ça a donc été le plus grand succès d'un film français. Avant d'être un film de toute nationalité confondue en France, avant d'être dépassé par Titanic. C'est donc un film que j'aurai dans un moment l'occasion d'évoquer encore à propos du livre de Steiner pour essayer de montrer que là aussi, il se peut qu'il y ait un tournant important dans les mentalités. Enfin, on peut dire qu'on peut terminer l'année aussi en revenant à la télévision. C'est une année de querelles sur la télévision d'État. À la suite de la réélection ou de la première élection du général de Gaulle au suffrage universel direct en décembre 1965 et de timides tentatives de libéralisation de l'ORTF. À la suite de l'élection présidentielle, de nombreux nouveaux programmes sont apparus. J'en ai cité certains, Zoom, Face à Face, à propos de Valdécrochet la semaine dernière, qui en était le deuxième ou troisième invité, Face à Face devenu à l'automne de 1966 en direct avec, qui a été évoqué la semaine passée par Antoine Pro à propos du passage de Christian Fouché pour parler des réformes de l'éducation nationale. J'ai plusieurs fois montré des extraits de Dim Dam Dom et notamment ce très beau film d'Agnès Varda pour les 70 ans d'Elsa Triolet, montré en octobre 1966. Je vous montrerai tout à l'heure un extrait de Panorama. Toutes ces émissions apparues en 1968 à la suite des élections et toutes ces émissions qui s'arrêteront en mai 68. Ce qui se passe à la télévision est l'un des meilleurs symptômes, me semble-t-il, des changements qui sont en cours en cette année-là, même si Jean-François Revel écrit dans l'Express du 2 janvier 1967, et donc pour clore l'année, que la télévision est l'énorme scandale français de l'heure. Je le cite, « Ce scandale, c'est l'asservissement de façon prédominante à la propagande gouvernementale de l'ORTF, qui est un service public payé par tous les Français. Que dirait-on si seuls les UNR avaient le droit de se servir des PET et si les autres citoyens n'avaient le droit de poster une lettre que les rares fois où il plairait aux gaullistes de les y autoriser ?» Nous n'avons plus ni l'UNR ni les PET, mais ça nous montre bien qu'il y a là quelque chose qui est important. Et si j'avais eu un peu plus de temps, je vous aurais montré, pour terminer ce cours, une émission qui a eu lieu le 13 janvier 1967 et qui clôt parfaitement l'année à la télévision. C'est la comédie musicale Anna, téléfilm que je vous recommande de télécharger à l'INA. J'ai constaté hier soir, en téléchargeant les petites choses que je voulais vous montrer aujourd'hui, que l'émission de Proust, que je vous ai montré il y a un certain nombre de semaines, je ne sais pas si c'est à la suite de mon cours, est numéro un des téléchargements de l'INA. Alors, je crois leur avoir fait beaucoup de publicité, et c'est assez surprenant, voir Proust numéro un à l'INA, à la télévision, mais enfin, c'est le cas. Je vous aurais donc montré cette comédie musicale Anna, téléfilm de Pierre Koralnik, sur la première chaîne, ce qui est une comédie musicale de Gainsbourg et qui est assez admirable, avec quelques chansons d'Anna Karina, comme « Sous le soleil exactement » et « Roller Girl », chanson interprétée par Anna Karina. Anna Karina, c'est quand même la femme de 1966. Quelqu'un m'a fait donner tout à l'heure les lettres données, je crois que je dois le rendre, mais les lettres françaises du 31 mars 1966 avec l'interview de Foucault à propos de la sortie des mots et les choses par Raymond Bellour, la couverture, c'est la couverture de toute la presse française au printemps de 1966, c'est Anna Karina dans La Religieuse. Mais elle clôt aussi l'année avec Anna, ce magnifique téléfilm dont Très Nouvelle Vague, avec Gainsbourg et Briali, qui sont les deux acteurs masculins, et la photo de Willy Curante, que j'ai évoqué, puisque c'est le même que dans Masculin-Féminin, les belles images en noir et blanc de Masculin-Féminin. Mais je voudrais maintenant avouer les impasses, les lacunes, les manques de ce cours. Certains d'entre vous ont été surpris par des leçons qui n'étaient pas étroitement littéraires. Quelle légitimité ai-je pour aller parler d'autre chose ? Et on m'a renvoyé que je n'étais ni historien, ni sociologue, et que je faisais des escapades dans des terrains interdits, que je me mêlais de ce qui ne me regardait pas, et que cela ne relevait pas de mes compétences. Il est vrai qu'après 35 ans d'enseignement supérieur, parce que j'ai enseigné pour la première fois en 1975, c'est la première fois que j'introduis dans un cours des images et des sons du cinéma. Et peut-être que c'est le symptôme que les temps ont changé et qu'il fallait que je bouge moi aussi. J'ai parlé de beaucoup de choses auxquelles je ne connaissais rien, mais il reste quand même une série de trous majeurs. Je me suis fait aider pour la musique et les arts plastiques par des invités au séminaire. La télévision, je regrette maintenant, j'ai souvent évoqué la télévision, mais je pense qu'elle méritait une leçon à part. On m'a fait remarquer qu'il n'y en avait pas assez pour les sciences et les techniques, je l'ai dit la semaine dernière. Je n'ai pas assez parlé des villes nouvelles. et de l'urbanisme de cette période. Je n'ai pas parlé, j'ai reçu une lettre à ce propos, de la crise de la chaise vide, c'est-à-dire des débats européens à propos du financement de la PAC. Déjà, on dit parler de la PAC, la politique agricole commune, et de l'accord du Luxembourg qui a terminé l'année, janvier 1966, et reconnu à la France un droit de veto lorsque les intérêts importants étaient en jeu. Le général de Gaulle en parle dans sa fameuse conférence. Toutes les conférences de presse du général de Gaulle sont fameuses, mais cette conférence de presse fameuse du 21 février 1966. C'est à propos de l'OTAN, justement. Je n'ai pas assez parlé des femmes. La place du féminisme a été sûrement très insuffisante et quelqu'un m'avait signalé notamment que je devais parler des femmes et de la banque. Parce que la loi du 13 juillet 1965 est entrée en vigueur le 1er février 1966. C'est une loi qui porte réforme des régimes matrimoniaux et qui rend effective la capacité juridique de la femme mariée. Article 221, chacun des époux peut se faire ouvrir sans le consentement de l'autre tout compte de dépôt et tout compte de titre en son nom personnel. L'époux déposant est réputé à l'égard du dépositaire avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt. Autrement dit, pour la première fois, les femmes peuvent ouvrir un compte en banque sans le consentement de leur mari. Il y avait une loi de Vichy, 22 septembre 1942, qui permettait aux femmes d'ouvrir un compte en banque. La raison était que la plupart des hommes étaient prisonniers, qu'il fallait bien que les femmes puissent toucher des revenus. Mais il y avait de multiples tracas qui leur étaient opposés lorsqu'elles voulaient solliciter des crédits ou acheter des titres. On leur demandait toujours de justifier de l'autorisation de leur mari. Elles n'ont plus à se justifier. Et article 223 de la même loi, chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après s'être acquitté des charges du mariage. C'est la loi qui établit donc l'égalité des époux dans la gestion des biens et introduit la communauté réduite aux acquêts qui devient le régime légal en l'absence d'un contrat de mariage. Chaque époux peut ouvrir un compte en banque et les femmes peuvent travailler sans le consentement de leur mari. C'est vrai que ce sont des données tout à fait capitales auxquelles j'aurais pu consacrer plus de temps. Mais je voudrais en venir, après l'énoncé de ces quelques lacunes, je voudrais en venir à une dernière affaire qui a largement occupé l'année. Je me suis demandé quelle affaire évoquerais-je pour finir. Il y a eu, en 1966, nous l'avons vu, de nombreuses affaires. C'est l'année des affaires, mais peut-être que toutes les années sont les années des affaires. C'est l'année de l'affaire Ben Barka, c'est l'année de l'affaire de la religieuse, c'est l'année de l'affaire des paravents, c'est l'année de l'affaire Boulez, c'est l'année de l'affaire de l'UNEF à Strasbourg. Alors, on dit plutôt scandale à propos de l'UNEF. Mais je ne sais pas s'il y a autant d'affaires chaque année. Il ne faudrait pas rendre cette année 1966 plus exceptionnelle qu'elle ne le fut. Il reste en tout cas une affaire que je voudrais aborder, un scandale, un débat, une polémique. C'est celle qui a été soulevée par ce livre de Jean-François Steiner, Treblinka, dont vous avez pu remarquer que l'affaire est telle qu'après avoir mis le livre au programme du Masque et la Plume, on n'en parle pas. On ne sait pas comment en parler. C'est un débat que je voudrais aborder et qui porte donc sur le génocide et sur l'attitude des Juifs, ou de certains Juifs, polémique qui a été soulevée à propos de...
Si j'en crois le petit papier qu'on a remis après. Alors, j'ai fait un peu de journalisme, enfin, de 2-3 ans, et puis j'en ai eu un peu assez. Il y avait un vieux projet, une vieille idée lancinante, un problème que je voulais éclaircir. D'un côté, j'ai eu assez de faire du journalisme, alors j'ai quitté le journal où j'étais à l'époque, et j'ai commencé, enfin, j'ai trouvé un éditeur, et je lui ai proposé d'écrire un livre sur la résistance juive. Thank you.
quoi, c'est pour les actualités ?
Oui, non, pour
un truc à la télévision.
Oui, ça vous ennuie ?
Non, pas du tout.
Très bien. Je ne savais pas exactement ce que je voulais faire au départ.
Bien. Donc, ça, c'était un extrait de l'émission Panorama, émission d'actualité hebdomadaire de la télévision, l'une de ses nouvelles émissions de 1965. Treblinka, donc, avec une préface de Simone de Beauvoir, que vous avez aperçu, c'est le récit romancé de l'histoire d'un camp d'extermination et de la révolte qui éclata en août 1943. Et ça a été un des best-sellers de l'année 1966, d'abord accueilli avec émotion, ensuite l'objet de violentes polémiques. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous l'ont lu à ce moment-là, alors que c'est un livre qui n'est pas, en raison de ces polémiques, qui n'est pas disponible aujourd'hui en librairie. Il a été lancé par une prépublication dans les temps modernes, en février 1966. Entre un éditorial de Michel-Antoine Burnier, dont nous avons parlé, sur les élections, et l'article de Michel Thor, dont nous avons aussi parlé, qui est la grande attaque de Paul Ricoeur, condamné pour plagiat. Il a été lu par Pérec, dont nous parlerons peut-être tout à l'heure. Et pour mieux saisir le contexte, signalons une autre prépublication le mois suivant, mars 1966, dans les temps modernes, celle de « La banalité du mal », par Hannah Arendt, extrait de son livre de 1963 sur le procès de 1960, dont la traduction « Eichmann à Jérusalem, rapport sur la banalité du mal » paraîtra en novembre 1966, justement, chez Gallimard, et qui est le premier titre de la collection « Témoins » lancée par Pierre Nora. Vous vous rappelez peut-être que Pierre Nora nous a dit « J'ai lancé la Bibliothèque des sciences humaines, mais Gaston Gallimard m'a demandé de promouvoir une collection plus grand public, collection Témoins, qui a commencé par Hannah Arendt. » D'autres extraits de l'ouvrage de Steiner paraissent dans Le Nouvel Observateur, mais l'affaire démarre avec un entretien retentissant avec Pierre Deméron, que vous avez entendu au Masque et la Plume, à propos de la biographie de Proust par Painter, et qui porte ce titre assez provocateur, « Les Juifs, ce qu'on n'a jamais osé dire ». C'est un numéro spécial et gratuit de l'hebdomadaire qui lance le livre et le scandale le 14 mars 1966. Steiner est un jeune journaliste de 28 ans qui a collaboré à l'Express, Combat, et notamment au Nouveau Candide. Nouveau Candide, hebdomadaire gaulliste, lancé en 1961, au moment de la guerre d'Algérie, pour faire concurrence à l'Express et au Nouvel Observateur. C'est un journal qui est financé sur les fonds secrets de Matignon. Steiner est le fils d'un juif polonais, Kadmi ou Kadmi Cohen, dont l'histoire est très intéressante. Malheureusement, je n'ai pas beaucoup de temps pour en parler. Il a été élevé en Palestine, il est venu en France, il est engagé volontaire dans la Légion étrangère en août 14, licencié en droit, avocat, après la Première Guerre mondiale, naturalisé français. Il est l'auteur de quelques livres célèbres, donc son père, L'abomination américaine, sur lequel je crois que mon ami Philippe Roger a écrit il y a quelque temps, et surtout L'État d'Israël, l'avenir du sionisme. C'est un sioniste militant, conseiller de l'organisation sioniste mondiale, l'organisation sioniste, ce qu'on appelle sioniste de droite, révisionniste. Il est arrêté en 1941 et fondateur d'un mouvement qui s'appelle Massada, qui prend contact avec Vichy pour essayer de faire quitter la France aux Juifs. Mais il est de nouveau arrêté en 1944 et part dans un convoi à destination d'Auschwitz, où il mourra en juin 1944. Donc Steiner est le fils d'un déporté mort dans les camps et d'une mère catholique. Steiner, c'est le nom de son beau-père qui a été dans les brigades internationales en Espagne. Steiner a vécu en Israël un an, dans un kibboutz. Ensuite, il a été parachutiste en Algérie. Et le livre Treblinka lui a été commandé par Constantin Melnik, que vous avez vu à table auprès de lui dans le petit film que vous venez de voir. Constantin Melnik, qui est l'un des célèbres espions de la Ve République. C'était le conseiller de Michel Debré, lorsque Michel Debré était Premier ministre pour la police et la sécurité. Il avait pour surnom, parce qu'il était russe, le Zdek Tartar. Et c'était le prototype de l'espion devenu éditeur une fois la guerre d'Algérie finie. Son livre le plus célèbre comme éditeur, c'est L'Orchestre Rouge de Gilles Perrault. Mais l'ouvrage de Steiner a connu donc un succès extraordinaire, attesté par la quatrième de couverture de la réédition de 1994, dont je vous cite quelques extraits, donc les commentaires de 1966. Jacques-Laurent Bost, que l'on connaît, qui faisait partie de la famille de Sartre, dans Le Nouvel Observateur, le livre le plus atroce, le plus fascinant, et si l'on ose dire, étant donné le sujet, le plus passionnant et le plus beau qu'on ait jamais écrit sur les camps. Le voici dans cette librairie. Edmond Michelet, grand déporté, juste d'entre les nations, ancien ministre de la Justice, membre du Conseil constitutionnel, dans Le Monde, seul un très grand talent pouvait être capable de recréer avec tant d'exactitude le climat qu'on subit à un degré ou à un autre, les échappées de l'univers concentrationnaire. Pierre Durand, dans L'Humanité, jamais description aussi systématique de l'horreur, aussi minutieuse, aussi évocatrice, n'aura autant bouleversé l'ancien déporté que je suis. Françoise Giroud, dans L'Express, on ne se demande pas s'il est bon, il est inoubliable. Et Joseph Rovan, dans Esprit, en juin 1966, si je ne craignais pas les grands mots, je dirais que ce livre ne devrait pas faire l'objet de contestations de littérateurs ou d'historiens ou d'hommes politiques, mais qu'il justifie une querelle de prophètes. Donc, une sorte de vague d'éloges pour ce livre, sans oublier la très longue chronique de François Mauriac dans le Figaro littéraire, en pleine polémique en mai 1966, bouleversé par le livre et refusant d'entrer dans la dispute. Je cite « Je rouvre Treblinka et je suis sûr maintenant que j'aurai la force et le courage d'en voir la fin avant que la journée soit achevée, puisque la fin, c'est la sortie de l'enfer pour le peuple de Dieu. » Un peu plus haut, il a écrit « Ce que Treblinka nous révèle avec une évidence qui nous rend la force et le courage de revivre en pensée ce que ces hommes, ces femmes, ces enfants ont subi, c'est la mission d'Israël qui est de rappeler à l'Occident de quelle abomination il a été le témoin et donc le complice et de lui interdire l'oubli. » Avec les noms des camps, écrit encore Mauriac, les enfants juifs pourraient chanter une ronde, une comptine comme Amstramgram. Sans doute se souvient-il du Kaddish qui terminait Le dernier des justes, le roman d'André Schwarzbart en 1959, qui avait déjà fait polémique et qui se terminait ainsi, selon une phrase qui est inscrite à Yad Vashem, « Et loué Auschwitz, soit Majdanek, l'éternel Treblinka, et loué Buchenwald, soit Mauthausen, l'éternel Belzec, etc. » Mauriac suggère le motif du scandale. Il, Steiner, décrit ce qui se passait du côté des victimes que le système condamnait inéluctablement par une miraculeuse mise au point à devenir les complices de leur bourreau. C'est le mot « complice » qui est là. Puis Mauriac digresse sur les bourreaux, les Allemands, et sur l'édification de l'Europe qui est en cours. Avant de conclure, le peuple de Dieu n'est sorti de son enfer, n'est revenu sur la terre, qui lui avait été donné que pour répéter au monde des survivants par sa seule présence, souvenez-vous, n'oubliez jamais. Le livre connu dès lors un énorme succès, je crois que 150 000 exemplaires ont été vendus dans l'année, il est défendu par les déportés, obtient le Grand Prix de la Résistance. Mais la controverse s'amplifie, même si Simone de Beauvoir avait averti dans sa préface, je la cite, l'auteur n'a pas prétendu faire un travail d'historien. Chaque détail est garanti par les témoignages écrits ou oraux qu'il a recueillis et confrontés, mais il ne s'est pas interdit une certaine mise en scène. En particulier, il a reconstruit les dialogues dont il ne connaissait évidemment pas les termes, mais seulement le contenu. On lui reprochera peut-être le manque de rigueur, il aurait été moins fidèle à la vérité s'il ne nous avait pas livré cette histoire dans son mouvement vivant. Steiner reconstruit en effet les destins de ses témoins, fait parler ses personnages. Certes, il s'est documenté, il a recueilli ses témoignages en Israël, mais les témoins ne se reconnaîtront pas dans le livre. Et l'amorce du scandale réside toutefois moins dans le livre lui-même que dans cet entretien de Candide, dont je vous ai montré la couverture scandaleuse. C'est là que se noue le scandale, où Steiner fait part de son sentiment de honte face à la mort de tant de Juifs. Je cite « Pourquoi les Juifs se sont-ils laissés mener à l'abattoir comme des moutons ?» s'est demandé, après bien d'autres, Jean-François Steiner, juif lui-même. Il avait 2 ans en 1940, dont le père et une grande partie de la famille sont morts en déportation. Tout tourne donc autour de cette image. Ils sont morts comme des moutons, qui est dans l'actualité, comme on va voir. Steiner l'a trouvé dans un article qui est sa source essentielle, qui est le point de départ du livre, « Le miracle dans l'abdication », publié dans la revue mensuelle de l'Association des médecins israélites de France en mars 1964. C'est un article d'Abba Kovner, qui est un grand résistant de Vilna, qui s'était exprimé le 31 décembre 1941 à Vilna dans une harangue appelant à la résistance au lieu, je cite, « d'aller comme des moutons à l'abattoir ». Voilà d'où vient cette phrase pour lui, et c'est une phrase dont la responsabilité hantera jusqu'à sa mort Kovner. L'article évoquait donc la passivité des victimes, mais aussi, avec ce titre « Le miracle dans l'abdication », la résistance, le miracle de la résistance et de l'héroïsme. Et c'est ça le point de départ de Steiner, qui recherche une histoire de résistance juive à opposer à la honte de la passivité. Et c'est ainsi qu'il fixe son choix sur la révolte de Treblinka en août 1943, dépouille les documents à Yad Vashem, à des entretiens avec les survivants. Je le cite, toujours dans cet article « Entretien qui fait scandale », « Si j'ai écrit ce livre, c'est parce que plus que de l'indignation, l'émotion qu'on voulait m'enseigner, je ressentais la honte d'être l'un des fils de ce peuple dont, au bout du compte, 6 millions de membres se sont laissés mener à l'abattoir comme des moutons. » Le livre porte donc sur la machine de destruction nazie. Le mot est employé partout. Les inventions techniques sont décrites froidement. À Treblinka, comme d'ailleurs dans tous les camps d'extermination, je cite, hein, les Allemands avaient organisé la machine, comme ils disaient, c'est-à-dire la machine à exterminer, de telle sorte qu'eux-mêmes n'avaient pratiquement plus rien à faire. C'était les Juifs qui faisaient tout. Son livre décrit ainsi, dans la machine, des victimes complices de leur sort. Je le cite encore, « Affaiblis physiquement, brisés moralement, les Juifs se laissaient conduire à la mort comme un troupeau de bêtes à l'abattoir, se laissaient transformer en complices de l'extermination de leur peuple. » Arendt avait dit des choses à ses voisines qui avaient là aussi choqué lorsqu'elle dénonçait la trahison des élites. Arendt écrivait, par exemple, dans son livre qui paraît à la fin de 1966 en France, partout où il y avait des Juifs, il y avait des responsables juifs, reconnus comme tels, et ces responsables, à de très rares exceptions près, collaborèrent d'une façon ou d'une autre, pour une raison ou une autre, avec les nazis. Et le thème de la passivité est aussi abordé dans son livre, notamment lorsqu'elle cite les leçons que Ben-Gourion voulait tirer du procès à Eichmann à Jérusalem. Ils se sont laissés emmener... Pardon, Ben-Gourion, je cite. « Quant aux Juifs de la diaspora, ils devaient se souvenir que le judaïsme, vieux de 4000 ans avec ses créations spirituelles, sa quête morale et ses aspirations messianiques, avait toujours affronté un monde hostile que les Juifs avaient dégénéré au point d'aller à la mort comme des moutons à l'abattoir et que seule la création d'un État juif avait permis aux Juifs de rendre coup pour coup. » Vous voyez, chez Hannah Arendt, tout le noyau de la polémique était là. La dégénérescence du peuple juif lui l'incitant à aller à la mort comme des moutons et la mise en cause des responsables juifs des organisations qui s'étaient rendues complices. Steiner reprend donc cette idée de la passivité comme faillite morale. Entre parenthèses, c'était une idée qu'on trouve dans les textes de son père de l'avant-guerre. Mais il lui opposait la résistance juive, en l'occurrence l'insurrection de Treblinka, paradigmatique à ses yeux car elle manifeste la tradition du devoir de survivre et de témoigner, hein, puisque de Treblinka, nous avons le témoignage grâce à cette révolte. C'est un acte d'authentique héroïsme dans la conversion de la complicité en résistance. Alors pourquoi le scandale ? Ben, premièrement, je dirais parce que le livre est plus un roman qu'un document. C'est un document romancé. N'oublions pas que nous sommes aussi l'année d'un livre dont j'ai peu parlé, « In Cold Blood » de Truman Capote, de sang-froid, publié en 1966, qui fait la couverture de l'Express le 18 juillet 1966, avec ce titre « Le chef-d'œuvre de 1966 ». C'est un document romancé où les témoins interviewés ne se reconnaissent pas, et c'est à ce titre qu'il pourra servir à apporter de l'eau au moulin des négationnistes dans les années qui suivront. Deuxièmement, il crée ce malentendu en insistant sur la passivité, la complicité, la participation passive ou active à la persécution. Un numéro de Rivarol, en mai 1966, applaudit ainsi la thèse des juifs collaborateurs. En réaction, Léon Poliakov, un historien de l'antisémitisme, dénonce le retour de ce cliché antisémite de la lâcheté juive. On associe ce livre commercial exploitant ce sujet au livre de Roger Perfit, publié peu auparavant, « Les Juifs », 1965, qui prétendait lutter contre l'antisémitisme, mais qui reproduisait avec complaisance la plupart des clichés antisémites. Steiner est le plus violemment attaqué par David Rousset, de nouveau dans Candide. L'affaire Treblinka, les Juifs accusent. Mais c'est David Rousset qui est leur principal porte-parole, et que c'est encore une affaire de presse, hein, ça fait vendre tout cela. C'est David Rousset, l'auteur de l'univers concentrationnaire, qui accuse Steiner d'antisémitisme. Il dit « Steiner est un raciste juif ». À quoi répond le nouvel observateur, Simone de Beauvoir, qui avait fait la préface, qui reprend la parole avec Claude Lanzmann et Richard Marienstrass. « Le miracle, dit-elle, c'est que du fond de l'impuissance, une révolte ait pu avoir lieu. » Suite à un échange de lettres dans le Nouvel Observateur entre David Rousset et Simone de Beauvoir, David Rousset reprenant ce mot d'ordre, c'est un raciste juif, non pas antisémite, non pas nationaliste israélien, mais qui parle d'un raciste glorieux de la nature juive. Alors là aussi, je crois qu'il faut que nous voyons que 1966 est un moment important. Je l'ai dit, le livre d'Anna Arendt est publié à la fin de l'année. L'enfer de Treblinka de Vassili Grossman est réédité dans ce contexte. Le scandale est lié à ce thème de la victime consentante ainsi qu'au rôle des conseils juifs dans les ghettos et dans les camps. Et cela n'est pas atténué par l'accent du livre. Vous l'avez entendu, il voulait faire un livre sur la résistance juive. Et le livre est lu comme un livre sur la passivité et la collaboration. Ce livre marque le réveil de la mémoire de la Shoah en France, la mise en cause de la présentation des camps comme universels, qui dominaient depuis la libération, sous le thème de l'univers concentrationnaire, le titre du livre de David Rousset, « L'univers concentrationnaire, le même pour tous ». C'est le début de l'insistance sur le sort spécial des Juifs, sur la spécificité de leur histoire, et c'est le début de la différence entre camps de déportation et camps d'extermination. Et vous avez entendu dans l'extrait du Masque et la plume, au début du cours, comment cette distinction n'était pas faite par les journalistes qui parlaient là. Auschwitz n'est pas Buchenwald, ainsi que l'histoire officielle gaulliste et communiste l'avait maintenue jusque-là. Je terminerai sur cela en évoquant Pierre Vidal-Naquet. Vidal-Naquet avait évoqué son admiration pour ce livre de Steiner dans un article du Monde du 2 mai 1966, alors que la polémique faisait déjà rage. Vidal-Naquet défend le livre alors que l'affaire est déjà déclenchée, dans un article publié sous le titre « Treblinka et l'honneur des Juifs ». Pour l'essentiel, écrit-il, parce qu'il y a déjà des doutes sur la fidélité l'exactitude historique. Pour l'essentiel, Jean-François Steiner a su faire revivre avec vérité la dialectique de l'humiliation et de la révolte qui est l'histoire de Treblinka. Vidal-Naquet a aussi été opposé à David Rousset dans un débat organisé par Combat. Cependant, en 1980, dans un article intitulé « Un Eichmann de papier », il écrit qu'il était tombé dans le piège tendu par Treblinka, exemple de toute une sous-littérature qui représente une forme proprement immonde d'appel à la consommation et au sadisme. Vidal-Naquet reviendra souvent, parlera très souvent de ce livre, et toujours avec cette même thématique. Je me suis fait avoir en 1966, mais sans jamais renier le fond de ce qu'il avait dit. Il ne renie pas le fond de cet article de 1966 et il reconnaît à de multiples reprises que ce livre a réorienté définitivement ses travaux. Le livre était mauvais, mais pour Vidal-Naquet, et je dirais non seulement pour Vidal-Naquet, c'est un livre de conversion. En 1966, dira plus tard Vidal-Naquet, je le cite encore, était publié chez Fayard, à grand lancement et à grand scandale, le livre exécrable de Jean-François Steiner, Treblinka. Et c'est pourtant ce livre qui m'a fait comprendre ce qu'était un camp de pure extermination. La formation d'un historien ne se fait pas seulement à coup d'études documentées, même dans l'œuvre d'un historien et naturellement dans sa vie, il y a une part d'irrationnel. Ainsi, ce livre mauvais, détestable, scandaleux, n'en a pas moins bouleversé toute l'œuvre de Vidal-Naquet, qui le cite encore dans ses mémoires, livre exécrable, c'est en réalité en 1966 que, autour du destin juif, mon propre destin bascula. Ça, c'est la dernière version dans ses mémoires. Je m'étais engagé dans une voie sans retour. C'est ça que je voudrais marquer. Le livre est mauvais, il est détestable, et pourtant, il est un tournant de la conscience de Vidal-Naquet, et je dirais bien plus largement la conscience française sur les camps, Vidal-Naquet, dont les parents avaient disparu à Auschwitz. C'est donc une polémique importante qui a été continuée avec beaucoup d'eau apportée au moulin négationniste. D'autres ingrédients qui ont été connus peu après, le mariage en 1967 de Steiner avec une étudiante allemande rencontrée à Paris, Grit von Broschwitz. Les voilà dans François, quelques mois plus tard. Elle est la petite-fille du général von Broschwitz, qui était le commandant en chef de l'armée de terre allemande en 1940, qui est devenu maréchal le 19 juillet 1940, après la réussite de la campagne de France. Climat qui est donc relativement pesant, et on a pris en même temps plus tard le rôle joué par Gilles Perrault dans l'écriture romancée de ce document. Quant à la thèse sur la passivité des Juifs transformée en héroïsme, non résignation mais sacrifice, c'est une thèse avec laquelle nous avons toujours à débattre, puisque c'est par exemple celle qui a été énoncé à plusieurs reprises par Jean-Luc Godard. Il y a un livre qui vient d'être publié d'Alain Fleischer qui s'appelle « Réponse du muet au parlant » à propos de Jean-Luc Godard, ça vient d'être publié au Seuil, qui reprend précisément cette phrase de Godard que je cite, je vous la cite, sur la passivité. Donc, par rapport au camp de la mort, même quelqu'un comme Hannah Arendt a pu dire « ils se sont laissés emmener comme des boutons ». Moi, je me suis mis à penser, au contraire, que c'est eux qui ont sauvé Israël. Au fond, il y a eu 6 millions de kamikazes. C'est donc l'idée fixe de Godard qui a fait scandale. Je donne donc, pour finir, de l'importance à cette affaire pour au moins deux raisons. C'est la suite de l'affaire Schwarzbart de 1959, mais avec une toute autre ampleur, et elle prélude à toute la révision de l'histoire de l'occupation qui aura lieu en France dans les années qui vont suivre. Prise de conscience du rôle des Français dans la persécution des Juifs, notamment. Sartre commence à en parler en 1967, juste après. Inflexion de toute l'historiographie, l'un des auditeurs, ou plutôt une auditrice, m'a envoyé le livre de son père, Paul Tillard, sur la grande rafle du Veldiv, publié en 1967, qui vient d'être réédité, et bien sûr, cela mènera quelques années plus tard au chagrin et la pitié, et puis au grand livre de Paxton. Et puis, le deuxième point pour lequel je voulais parler de cela aujourd'hui, c'est parce que tout cela n'est pas sans affinité avec la destinée de Georges Perec, dont je disais qu'il avait lu au moins l'article des temps modernes, parachutiste, lui aussi. J'ai évoqué, ça me permet aussi de boucler les choses, puisque lors d'un premier cours, j'ai évoqué Les choses, son roman de l'automne de 1965, j'en ai parlé comme un roman de la vie étudiante prolongée, eh bien, ça me permet de citer son autre livre de l'année, 1966, « Quel petit vélo à guidon chromé au fond de la cour », publié au printemps, qui est cette fois un roman de l'armée, du service militaire et de l'Algérie. On fait tout pour éviter à un camarade de partir là-bas. Eh bien, je voudrais terminer le cours avec ça, j'ai encore une chose à vous dire, mais je voudrais terminer mon propos avec ça, puisqu'au fond, cette fin de 1966, c'est un peu avant la guerre des six jours, et tout cela sera évidemment profondément bouleversé dans les années suivantes. Il me reste quelques minutes pour conclure, et je voudrais le faire en me livrant un peu d'égo-histoire pour conclure cette série de leçons sur 1966, ou plutôt 1965-1966. Jusqu'ici, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, j'ai traité les hommes et les femmes de 1966 comme s'ils étaient des Nambikwara ou des Arapesh. Je citais Michel Foucault qui, dans les entretiens sur les mots et les choses, disait j'ai parlé des hommes de ces vieilles épistémées comme des Nambikwara, les Nambikwara de Lévi-Strauss ou les Arapesh, les fameuses tribus de Margaret Mead. Et Foucault disait le meilleur historien des épistémées occidentales, ce serait un martien. J'ai parlé de 1966 comme un martien en évitant tout engagement, toute implication avec la distance, ce qu'on appelle la neutralité axiologique du chercheur en sciences sociales, du moins en essayant, sans jugement de valeur, comme si je n'y étais pas. Mais je crois que c'est tout aussi incorrect et presque malhonnête de faire comme si on n'était pas là. L'objectivité, ou du moins sa recherche, suppose aussi d'essayer de comprendre où on se situe et comment. Si on ne le fait pas, c'est un peu la place du roi, comme l'a décrit Michel Foucault dans le prologue des Mots et les choses sur les suivantes de Velázquez. Antoine Pro nous rappelait la semaine dernière qu'il était présent au colloque de Caen de novembre 1966, que j'aurais pu rappeler dans ma chronologie au début de cette leçon, ce colloque de Caen qui clôt toute la réforme de l'université et de la recherche qui clôt. Il ne sera pas appliqué, il clôt les débats. Rien n'a changé, évidemment. Mais il nous rappelait sa présence au colloque de Caen. Gérard Genette nous rappelait le concert de Stan Getz auquel il avait assisté à l'automne de 1966. Pierre Nora nous rappelait comment il était engagé dans cette année-là. Et je crois que le devoir d'implication appartient aussi à l'éthique du chercheur. La question m'a été souvent posée, un peu partout, pourquoi 1966 ? J'ai souvent biaisé dans ma réponse en disant que j'avais tiré l'année au sort. Évidemment, c'était un mensonge. C'était faux. Sans doute, j'ai pu trouver beaucoup de justifications scientifiques, chemin faisant, méthodologiques. Elles ne manquent pas. Elles sont possibles et je crois qu'elles sont valables. Je crois que c'est en effet une année tournant dans la France moderne. C'est une année importante et aujourd'hui encore, je viens d'essayer d'indiquer un tournant qui, à mes yeux, est majeur, dans la perception de l'occupation, dans la perception du sort des Juifs, dans l'apparition de la Shoah, dont on ne parlait pas encore sous ce terme. Il y a donc beaucoup d'aspects qui font de cette année un tournant démographique, politique, économique, sociaux, culturel. Mais bien sûr, j'avais aussi des motivations personnelles pour parler de 1965-1966, et j'ai voulu vérifier quelques petits faits qui me concernaient. C'est la dernière justification que je voudrais vous donner, et c'est un aveu donc personnel, intime, déontologique aussi. 1965-1966, c'est l'année où j'ai découvert la France. C'est l'année où je suis arrivé en France, où je suis revenu en France plutôt, après avoir passé une bonne partie de mon adolescence aux États-Unis et après avoir passé une bonne partie de mes études secondaires à Washington. Nous avons débarqué en famille et nous voici par le paquebot France au Havre, mon père et ses 6 enfants, le 23 août 1965, très exactement, car on traversait encore l'Atlantique en bateau. Cherchant la date de cette arrivée au Havre, j'ai même découvert que cette traversée avait battu le record du remplissage du France, sans doute à cause de nous, avec 2051 passagers. Pour moi, ça a donc été le moment de la découverte de la France. Qu'est-ce que ça voulait dire être français ? Qu'est-ce qu'une nation ? Qu'est-ce qu'une identité nationale ? On en débat beaucoup aujourd'hui, peut-être même un peu trop, plus ou moins heureusement. Mais j'ai les souvenirs de m'être posé cette question en arrivant en France, et si j'ai un sentiment d'identité française, il date de cette année-là, avec la haine et l'amour qu'on peut avoir pour une identité nationale. Au fond, c'était l'un de mes buts, c'était de vérifier ce sentiment, de vérifier la dimension historique de mon histoire. J'ai évoqué à plusieurs reprises le livre d'Annie Ernaux, « Les années », que j'aime beaucoup, qui est probablement l'une des sources de ce cours. Et au fond, dans chaque leçon, j'aurais pu inclure une digression sur ma présence. Quand je suis arrivé à Paris, le 23 août ou le 24 1965, l'une de mes premières recherches, vaines d'ailleurs, a été celle du Quartier Latin. J'ai pris le métro et je ne sais pas pourquoi, j'avais l'idée de trouver le Quartier Latin. Je ne l'ai jamais trouvé. J'imaginais, je pense, un quartier qui ressemblait à Oxford ou à Cambridge. Et malgré cela, il se trouve que j'aurais passé une bonne partie de ma vie entre l'école polytechnique, la Sorbonne et le Collège de France, en plein quartier latin. Je suis au cœur du quartier latin, mais je le cherche toujours. En tout cas, au début de septembre 1965, cette année-là, j'ai seulement traversé Paris avant de me rendre en province, en pension. On m'a dit que mon cours sur 1965-66 était un peu trop parisien, et pourtant j'étais en province. Voici la preuve. Ça, c'était ma photo de classe de 1965-1966, élève au Prytané National Militaire à La Flèche. Vous me trouverez si vous avez de bons yeux. Au passage, cela désigne une autre impasse de ce cours. Je me rends compte, en vous montrant cette photo, que je n'ai pas parlé de l'armée en 1965-1966. Or, l'armée en était, elle aussi, à un tournant, cette année-là. Elle venait de passer par des terribles plans de réduction des effectifs à la suite de la guerre d'Algérie, et elle avait été divisée par deux. Elle est passée de 62 à 66, de 700 000 hommes à moins de 350 000 hommes. Et il y avait une grave crise dans l'armée en 1965-1966, une crise dont je voudrais simplement vous donner ce témoignage pour corriger cette lacune. Voici ce que disait Joël Le Teul. Joël Le Teul, peut-être que ce nom ne vous dit plus grand-chose, mais sachez seulement qu'il était le mentor de notre actuel Premier ministre. Nous sommes toujours en 1966, en ce sens. François Fillon était l'attaché parlementaire de Joël Le Teul, et quand Joël Le Teul est mort, ministre de la Défense sous Giscard d'Estaing, c'est son jeune attaché parlementaire qui lui a succédé. C'était un spécialiste de l'armée. J'en parle parce qu'il était professeur d'histoire à La Flèche également. Et voici ce qu'il disait en octobre 1965 à l'Assemblée nationale. L'inquiétude est grande dans l'armée de terre. Dans beaucoup d'unités, les cadres s'interrogent sur son rôle et son avenir. Ne risque-t-elle pas de paraître quelque peu anachronique ? Cet état d'esprit est inquiétant. il est indispensable que par des mesures pratiques et immédiates, cette dégradation de la confiance soit stoppée. Le ministre des Armées, Pierre Messmer, disait à peu près la même chose à l'Assemblée nationale le 10 novembre 1965 à propos du basculement technique de l'armée. C'est une armée qui se convertit de la contre-guérilla à la dissuasion. Vous connaissez les mots de cette époque, ce que la langue française doit à ces débats militaires, des stratégies militaires de 1965-1966, c'est l'expression « tous azimuts » passée dans le langage courant, dont je vérifiais les statistiques pour nous montrer que c'était bien en 1965 qu'elle se développait. Nous la devons au général Ayré, qui était le stratège de la défense nucléaire française. Il y aurait donc eu à faire sur l'armée. 1965-1966, c'est peut-être l'année où le service militaire n'a plus été une épreuve de virilité pour les jeunes Français. C'est l'année où on a commencé à être fiers d'être réformés, ce qui était inconcevable auparavant. En 1965-1966, je ne partageais donc pas les préoccupations d'un certain nombre de jeunes Français plus parisiens et plus intellectuels. J'appartenais sans doute à la génération du livre de poche, dont j'ai beaucoup parlé, et je vous ai montré de nombreuses images des livres de ma bibliothèque, de mes lectures, pour illustrer mon propos. Mais au Prytanée militaire, à La Flèche, les lectures qu'on faisait, je les avais oubliées, mais l'actualité me les a rappelées, puisque c'était celle de Jean Lartigui, qui vient de mourir la semaine dernière, ou il y a 15 jours. On lisait les centurions, les mercenaires et les prétoriens, bien entendu. La campagne présidentielle, j'en ai parlé. Oui, je me souviens de l'avoir suivie attentivement. J'ai vu les entretiens de Gaulle et de Michel Droit à la salle de télévision du Prytanée, le général bondissant et s'écriant « Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri, le voici !» en disant « l'Europe, l'Europe, l'Europe », mais cela n'aboutit à rien et cela ne signifie rien. Je me suis passionné ensuite pour l'affaire Ben Barka, à la suite des articles de l'Express qui se sont multipliés. Et j'ai retrouvé, en préparant ce cours, que dans l'article de l'Express qui avait déclenché l'affaire Ben Barka, on avait en même temps, dans le même numéro, l'article de Françoise Giroud sur Pierrot le Fou. Elle disait « les gens sérieux ont horreur de ça ». C'est un film anarchiste. Ils disent, bien sûr, interdit à ce titre aux moins de 18 ans. Sans doute que passé 18 ans, il n'y a plus rien à craindre. La glu est sèche, plus question de décoller. Aux stupidités de la censure, les gens sérieux ont horreur de Godard. Et voici ce que nous lisions à l'époque, ce numéro qui a déclenché l'affaire. Quant à ma musique préférée, vous l'avez peut-être compris parce que je l'évoquais plusieurs fois, à l'époque, c'était l'album de Gainsbourg, Gainsbourg Percussion, c'est pourquoi je vous ai parlé de Gainsbourg, album de 1964, et le 45 tours du printemps 1966, qui est in, qui est out, et Dr. Jekyll et Monsieur Hyde. Pierrot le Fou, je l'ai vu en effet en février 1966 avec ma sœur, sans le moindre souvenir que c'était interdit aux moins de 18 ans. Ce qui veut dire, puisque j'en avais 15, que le régime continuait de censurer, mais qu'on ne suivait pas, on n'y prêtait pas attention et que l'ordre moral avait bien disparu. Vous le voyez, chaque leçon aurait pu avoir son articulation personnelle, privée, juste quelques points. François Châtelet, je n'avais aucune idée que je le retrouverais dans ce cours, mais je l'ai eu comme professeur et je l'ai eu comme ami, et c'était un très grand professeur. Il fumait, ça aussi c'est un signe d'une autre époque, il fumait des camels en les allumant l'une à l'autre pendant toute l'heure de cours. Il fumait à peu près un paquet de camels en une heure de cours et il en est mort. Hein, c'est pour ça que je l'ai dit, c'est pas très drôle. J'ai évoqué François Val, ou nous l'avons évoqué à plusieurs reprises. Il a été mon premier éditeur au Seuil et un ami. Althusser, je me souviens de l'avoir rencontré dans son petit bureau de la rue d'Ulm, Roland Barthes, bien sûr, Gérard Genette, Pierre Nora. Le dernier que je voudrais évoquer, c'est Roland Leroy. J'ai parlé de lui de la semaine dernière. Roland Leroy, qui est celui qui a repris en main l'UEC, qui était le membre du bureau politique du Parti communiste. C'était un homme, je n'ai jamais rencontré un homme aussi séduisant. Il ressemblait à Roger Vaillant, et on avait l'impression d'être devant Mosca ou quelqu'un de la sorte. Il fallait être vraiment résistant pour ne pas s'inscrire au PCF après avoir eu affaire à Roland Leroy. Si je vous disais que je n'ai jamais connu d'homme aussi charmant que Roland Leroy, eh bien ça vous ferait rire et vous riez et vous aurez raison, mais c'est aussi cela, les aléas de l'histoire. Oh, j'ai aussi bien connu, enfin connu un peu Christian Fouché, dont nous parlions la semaine passée, et Vidal Naquet, dont je parlais aujourd'hui. Mais il y a aussi eu beaucoup de développements inattendus, et j'en signalerai un ou deux. Je n'avais aucune idée en commençant ce cours qu'Aragon y occuperait autant de place. Je ne savais même pas qu'il figurerait dans ce cours, avec ses bons côtés comme Blanche ou l'oubli. J'ignorais que ce livre me servirait de chronique de l'année, et avec ses mauvais côtés, comme ce que je vous ai lu la semaine passée de son intervention au congrès d'Argenteuil contre Althusser, cette intervention insidieuse, délatrice et odieuse. Je ne savais pas non plus que je vous parlerais autant de Malraux, dans l'œil du cyclone, dans l'œil au centre de toutes ces affaires, mais absent, déprimé, alcoolique, enfoncé dans les anti-mémoires. Au fond, et je ne savais absolument pas, jusqu'il y a quelques jours, je ne savais pas mardi dernier, que je vous parlerai de Treblinka aujourd'hui en me demandant quelle dernière affaire évoquer. Vous voyez que d'une certaine façon, je vous ai raconté mon histoire. 1966, c'était un peu un prétexte. J'ai l'illusion que c'est l'année après laquelle je n'ai pas changé, ce qui est évidemment faux, ce qui est évidemment complètement trompeur, mais je crois que nous avons besoin de ces fictions pour continuer à vivre. Merci.